Merci. Merci de poser cette question et de la poser comme vous l'avez fait. Bon, on pourrait dire, mais ce ne serait pas une réponse, ce serait une fuite de réponse de manière. Nous, le vote a eu lieu. Mais je voudrais aller plus loin, sans raviver des souvenirs qui peuvent être bons pour certains, mais pénibles pour d'autres, y compris le sens de la question. Ce qu'il faut bien mesurer, c'est que je ne crois pas, c'est un sentiment que je donne, que, à différence de la caricature qui est parfois présentée, dans le vote du peuple français, on sait comme on sait, il y avait d'un côté des gens qui étaient pour l'Europe et des gens qui étaient contre l'Europe. Enfin, je n'ai pas cette lecture. Je pense que l'immense majorité des Français sont pour l'Europe, simplement. Par rapport à la question qui était posée, qui était vous pour le traité constitutionnel ou pas, il y avait des gens qui disaient, bon, peut-être pas formidable, mais ce sera déjà avancé, et d'autres, je n'en dis pas, qui disaient, mais faisons attention, parce que si on vote ça, qui est quand même une constitution, c'est comme ça qu'on plaît, et il faudra la respecter, on ne pourra pas, trois jours après, venir et dire, il faut faire autrement. Et sans raviver ce débat, je suis obligé quand même de constater deux ou trois choses. À l'époque, vous savez, le grand débat, c'était il faut que l'objectif soit la concurrence libre et non faussée. On l'a entendu 25 fois, et c'était effectivement ce qu'il y avait dans le traité constitutionnel. Je veux dire honnêtement qu'aujourd'hui, personne n'irait soutenir que l'objectif qu'il faut poursuivre, c'est la concurrence libre et non faussée. Donc, ce n'est pas du tout le sujet à l'époque. Deuxièmement, je me rappelle qu'à l'époque, quand on entrait dans le texte, vraiment, on disait, le rôle de la Banque centrale, il y a, certains disaient, il faut qu'elle s'occupe uniquement de l'inflation, d'autres disaient, non, il faut qu'elle s'occupe de l'inflation et de la croissance, etc. Le débat était passé, il était tranché par les faits. Il y avait un troisième débat, un peu moins important. Certains, dont j'étais, disaient, faisons attention, si on veut aller dans le sens d'une politique économique vraiment audacieuse, il faut avoir de l'argent pour ça. L'argent, il faut donc que le budget soit plus important, ce n'est pas possible, et il faut qu'on puisse faire des emprunts européens. Vous vous rappelez ces débats. Or, la Constitution interdit les emprunts européens. J'entendais l'autre jour même M. Balladur dire qu'il fallait plein de temps faire des emprunts européens. Alors, je l'ai rencontré dans un couloir, je lui dis, souviens-toi, les bientôt. Bon, donc, je pense que ce débat-là est assez largement. Et puis, je ne parle même pas du pacte de stabilité. Vous avez le pacte de stabilité, si vous faites plus de 3%, etc. Vous avez des prévisions de l'OCDE. L'année prochaine, on sera à 8,6. Donc, moi, j'en tire ni argument positif ni négatif. Chacun a compris comment je sens les choses. Je crois surtout, qu'il faut se rendre compte. Et ça, c'est une thèse que j'avais à l'époque et qui maintenant est reprise très largement, et je m'en réjouis. Que je n'avais pas d'ailleurs inventée, c'était la thèse de François Mitterrand et de Jacques Delors. Je pense que si on veut, comme c'est nécessaire, avancer sur le plan européen, il faut que les pays qui veulent vraiment avancer sur le plan européen puissent le faire. Peut-être que la crise donnera des envies d'Europe à d'autres pays, parce que notamment les pays qui ne sont pas dans l'euro aujourd'hui, ils sont éliminés. Bon. Mais moi, je pense que, si vous voulez, si on doit attendre que les 27 soient d'accord pour faire quelque chose, on n'y arrive pas. C'est la leçon que moi j'avais tirée de ma propre pratique européenne. Alors, souvent, c'est étonnant de dire comment Fabius, qui est un grand européen, qui a contribué à faire l'euro, peut être contre le traité constitutionnel. Mais parce que j'ai vu les choses. Vous êtes 27 autour de la table. 27, hein, c'est beaucoup. Avec, évidemment, chacun son truc dans l'esprit. Si il faut, sur chaque décision, que les 27 soient d'accord avec le droit de veto, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, c'est aussi bête que ça. Il y a des choses qu'on devrait faire ensemble. Par exemple, il y a un problème qui va nous sauter à la figure dès que cette crise, même avant cette crise, ait été résorbée, c'est le problème de l'énergie, qui est un problème absolument majeur, bien sûr du point de vue environnemental, mais du point de vue vue de la sécurité. Bon. Il faut que l'on crée une espèce de communauté européenne de l'énergie. Bon, nous avons les mêmes intérêts que les Allemands et que d'autres. Il ne faut pas dépendre de ce que décident les autorités russes. Ou bon. Mais si on doit le faire à 27, on n'y arrivera pas. Très bien, dès maintenant. Alors, toujours l'anglais de service ou le Chipati qui dira non, parce que. Ou alors, ce n'est pas le cas des grands des Anglais, mais d'autres pays qui disent ben, d'accord, ça, mais à condition que pas ça. Quoi. Donc, l'idée de moi, ce que j'appelle l'Europe différenciée, c'est une idée absolument fondamentale. Il faut que quelques pays puissent, sans être fermés aux autres, dire ben, ça, on avance. Et puis, si les autres veulent venir, ils viendront à ce moment-là. Et si on dit il faut, au départ, qu'il y en ait 27, on n'arrivera à rien. Donc, ça, c'est une des leçons que je tire. Une des autres leçons que je tire, c'est que sur l'euro, je pense qu'il va être, il va obligatoirement, on va être obligé d'être beaucoup plus réactif qu'on a été. Je pense, je sais bien, malheureusement, beaucoup de Français en ce moment sont contre l'euro parce qu'ils confondent le fait d'avoir créé l'euro, que je considère comme une très bonne décision, et le fait que, avec la création de l'euro, il y a eu un dérapage des prix parce que les choses n'ont pas été contrôlées. Et les gens disent, ce qui est assez juste, qu'on a profité de l'euro pour faire un dérapage des prix. Ça, on le constate tous. Mais il reste que l'euro, on le voit quand même aujourd'hui. Je peux vous dire que si nous n'avions pas l'euro, bon, à quel niveau seraient les taux d'intérêt en France? Bon, les chefs d'entreprise se plaignent, ils se plaignent souvent, et les ménages aussi qui en prennent. Mais si on n'avait pas l'euro, avec la situation qui est celle de la France, qui n'est quand même pas une des plus brillantes du monde, bon, le taux d'intérêt serait je ne sais pas combien, à 15%. Bon. L'euro est, par sa construction, un élément qui quand même nous protège. Simplement, on ne peut pas se dire les États-Unis utilisent le dollar dans le sens de leur intérêt, les Chinois utilisent leur monnaie dans le sens de leur intérêt. Et nous, on attend que ça se passe. Parce qu'à ce moment-là, ça sera toujours au détriment de l'euro. Donc, il faut être plus proactif. Voilà quelques leçons que je tire, sans revenir sur le passé, des débats que nous avons eus. D'ailleurs, je crois comprendre, enfin, ce que je sens, que les gens sont beaucoup moins intéressés qu'avant sur la question des institutions. Ce que les gens sont intéressés, qu'est-ce que fait l'Europe, concrètement, tout ça. Voilà, est-ce qu'elle va nous permettre d'avancer, est-ce qu'elle nous protège, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça donne. Bon, et donc le débat institutionnel, bon, il faut permettre l'Europe différenciée, parce qu'on appelle les coopérations en français, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça me paraît nécessaire. Il faut faire preuve de nouvelles initiatives, il faut que, sur le plan industriel, sur le plan économique, sur le plan monétaire, on soit beaucoup plus offensif, donc l'Europe est plus valide que jamais, mais je ne suis pas sûr que les questions institutionnelles soient encore au